Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.
Il faut bien que je sache, moi aussi, je fais partie de la famille. Sa mère lui dit, en se retournant, mais en continuant à marcher. Bonne nuit, ma fille. Nathalie hausse ses épaules et dit, c'est pas juste que les enfants payent les crimes de leurs ancêtres. Moi et Gilbert n'étions pas nés lorsque ces choses se sont passées. Nous sommes innocents. La mère lui dit, oui, mais pas la famille. Nathalie hausse ses épaules et elle monte se coucher. Elle entre dans sa chambre et une fois dans sa chambre, elle se déshabille. Frappe à la porte. Entrez. C'est la bonne. Madame Dandy, c'est de vous apporter cette tisane pour vous détendre, Nathalie lui dit, énervée. J'ai pas besoin de tisane. Buvez-la. Elle est très bonne. J'ai mis du miel. Elle tend un bol bien chaud. Nathalie, pour pas lui faire de peine, le prend. Merci. Elle boit une gorgée. C'est très bon, merci. Verrez, cela va vous faire du bien. Et la bonne sort de la chambre. Nathalie s'assoit sur le rebord du lit et boit petite gorgée la tisane. Elle est bonne et douce. Cela la calme. Après avoir bu, elle pose le bol sur la table de nuit. Elle se sent lasse. Elle va vite se doucher. Puis, elle retourne dans sa chambre pour se coucher. Elle se couche.
et s'endort d'un coup, d'un sommeil profond. Elle s'est endormie d'un coup, d'un sommeil profond. Elle sent ses membres se détacher de son corps, son souffle devenir de plus en plus calme, elle a l'impression de tomber dans un gouffre. Puis, une douceur, elle se laisse aller. Trou noir. Puis, elle a l'impression de planer, voler. Elle vole dans la brume, petit à petit, une lumière, un beau parc. Une maison, parquet qui brille, grands, beaux meubles. Puis, c'est la nuit. Blanche, pieds nus. Une porte qui s'est ouverte. Odeur de cigares, de pantalons d'homme, des pas, une chemise blanche, de nuit. Il y a des cris. Des cris. Des pleurs. Des portes qui s'ouvrent. Des chemises de nuit qui marchent le long des couloirs. Une porte qui s'ouvre et se referme. Des pas. Des pas. Et... Un bruit sourd, un bruit terrible, un corps qui tombe à terre, en robe de chambre rouge, puis du noir, du rouge.
plus rien. Nathalie se réveille petit à petit et dans le noir, sent qu'elle n'est pas dans son lit, mais couchée sur le plancher. Elle se lève, elle est entourée de noir. Alors, elle cherche dans tous les sens. Elle panique car elle ne trouve que du vide autour d'elle. Apeurée, épuisée, elle s'affaisse et s'endort sur le sol. Trou noir. Elle sent qu'on la transporte et ne peut ouvrir les yeux trop fatiguée. Puis, elle sent qu'on la dépose. Sur quelque chose de dur, mou, et plus rien. Nathalie se réveille dans son lit. Elle voit sa chambre comme une petite fille avec des objets, meubles, immenses. Puis, petit à petit, tout redevient normal. La tête un peu lourde, a des difficultés à se retenir ses esprits. Elle se lève. Elle se dit, j'ai fait un rêve étrange. Elle quitte sa chemise de nuit pour aller prendre sa douche. Elle se rend pas compte que sa chemise de nuit est tachée à des taches noires, comme si elle avait été roulée ou s'est roulée dans un sol plein de suie. Et elle va prendre sa douche. Puis, elle s'habille pour aller prendre son petit déjeuner avec sa mère au salon. Elle sort de sa chambre et va au salon. Elle embrasse sa mère et s'assoit en face d'elle. Sa mère lui demande, « Tu vas bien ?»« Oui, mais trop dormi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?»«
Je me repose. »«
C'est bien. Repose-toi. Et ne pense à rien. Ne cherche pas à comprendre, ça ne sert à rien. »
Nathalie lui dit. Il le faut bien, si on veut résoudre les problèmes. Et puis, je suis ta fille, j'ai le droit de savoir. Sa mère lui dit. Moi, j'ai su, et ça a été le malheur de ma vie. Sa fille lui dit qu'elle vivait peut-être depuis dans le malheur, parce qu'elle était peut-être entourée de mensonges, alors qu'elle n'a fait qu'ensevelir les choses. Et elles prennent leur petit déjeuner. Puis Nathalie sort, elle veut marcher un peu dans le quartier. C'est dimanche, il y a peu de monde dehors. C'est bon de marcher dans la ville le matin, il y fait bon. La voiture l'a dépassée et s'est arrêtée lorsqu'elle est passée près d'elle. La portière arrière s'est ouverte.
Mademoiselle,
Nathalie se retourne et voit la portière ouverte. À l'intérieur de la voiture, une femme habillée d'une robe noire, blonde, très élégante dans les 25-30 ans.
Vous m'avez demandé, madame ?
Oui. J'ai une lettre à vous remettre.
À moi ?
Oui.
Elle tape sur la vitre qui la sépare du chauffeur. Elle se baisse.
Faites rentrer, mademoiselle.
Le chauffeur sort de voiture et va ouvrir la portière arrière de la voiture. Veut faire entrer Nathalie. Elle hésite.
La femme lui dit « Entrez, venez vous asseoir. »
Nathalie entre dans la voiture. Une odeur de parfum, d'alcool l'envahit. Le chauffeur ferme la portière.
« Vous êtes bien jolie. »
Nathalie rougit et baisse ses yeux.
« Tout à fait. Votre mère à votre âge. »
Vous avez connu ma mère ?
Non, mais qu'importe, je le sais de ma mère. Vous aimez vraiment Gilbert ?
Oui, madame.
Faudra être forte. Gilbert n'est pas comme les autres. Une personne peut en cacher deux. Bon, il faut que vous lisiez cette lettre.
Elle lui sort une lettre de son sac qui est près d'elle, la lui donne. Nathalie fait le geste de la décacheter. Il dit
« Non, plus tard. Au revoir, mademoiselle. »
Le chauffeur ouvre la portière.
« Au revoir, madame. »
Nathalie sort de la voiture. Voiture est partie. Nathalie ouvre l'enveloppe, lit le mot écrit à la main.
Vous devez vous rendre au cimetière de. Suivez l'allée de la deuxième travée à droite en entrant. aller à la dernière tombe, près du nom de Allez-y seul et ne dites rien à personne. Nathalie met la main, la lettre dans son enveloppe et la met dans sa poche.
Lorsque Nathalie entre chez sa mère, elle la retrouve au salon.
Tu en as mis du temps. Où étais-tu? Qu'est-ce que tu as fait?
Elle lui dit. Si tu as des secrets, moi aussi je peux en avoir. Sa mère ne lui dit rien. Gilbert est avec Julien dans sa chambre. Il lui a tout dit de son voyage et de la visite à la grand-mère. Julien lui dit
« Nous avons fait la connaissance de ton deux filles. Tu devrais peut-être laisser tomber. »
Gilbert lui dit « J'aimerais savoir c'est pourquoi elles en veulent à ma famille. »
Julien lui dit « Naka, tu m'as bien dit ?»
qu'elle ne s'appelait pas Poncet.
Alors trouve le nom et demande à ton père si leur nom ne lui dit pas quelque chose.
Peut-être une vieille histoire d'expulsion.
Gilbert lui dit, non, il paraît que ça a commencé du temps du grand-père. Et à cette époque, mon père n'était même pas né, ni notre entreprise.
Ce doit être autre chose.
Ça ne peut pas être ça.
Ou une histoire de femme.
Ton grand-père connaît peut-être la même femme que l'autre.
Non, pas ça. Ça a l'air plus général.
Pas une affaire privée.
Dit, histoire de, je sais pas moi, de métier, de travaux à faire.
Je ne crois pas non plus.
Alors, Gilbert lui dit, tu as raison. Il faut d'abord savoir le vrai nom de ces femmes.
Julien lui dit, demande-le-lui.
Non, elle ne me le dira certainement pas.
Il se taise un moment et Gilbert dit
« C'est bizarre. Depuis quelque temps, j'ai l'impression de m'entourer de mystères.
Regarde, le château, qu'est-ce que cache ce château?
Nathalie, sa famille, mon enlèvement, et puis tout. Depuis que mon père a pris la reconstruction de Paris, je vis dans un univers entouré de mystères, même mes parents.
Pourquoi tous ces mystères?
Julien lui dit,
si, tiens, la clinique me paraît de plus en plus louche.
Et puis, je sais pas ce qui se passe, il se passe de drôles de choses.
Françoise aussi est mystérieuse. Pourquoi ne veut-elle pas me dire où elle habite?
Et cette façon qu'elle a de te dénigrer.
Gilbert lui dit, et la nuit où j'ai suivi Nathalie avec ce jeune homme, qui était avec elle?
Julien lui dit, depuis que nous voyons ces filles, tout va de travers. Je me demande si elles ne sont pas des manipulatrices.
Gilbert lui dit. J'aime mieux ne pas y penser. Cela me ferait trop mal.
Je l'aime,
Julien lui dit.
On se fait peut-être des idées. Il n'y a peut-être rien de secret. Que tout est dans notre tête,
Gilbert lui dit.
Ou que nous sommes manipulés dans notre cerveau. Cela s'est vu et c'est possible. On peut être une autre personne et nous faire vivre une autre vie.
Une vie, celle d'un dénommé Gilbert qui n'existe peut-être même pas.
Julien lui demande, et pourquoi faire cette illusion?
Pour nous cacher la réalité qui est peut-être cruelle. La Terre n'est plus qu'en ruine. Il n'y a que des extraterrestres, des gens avec des formes horribles qui vivent et qui veulent prendre la Terre. Alors, ils font rêver les quelques humains qui restent sur Terre pour les empêcher qu'ils agissent contre eux.
Julien lui dit, c'est la science-fiction?
Gilbert lui dit,
c'est peut-être vrai, qu'est-ce que tu en sais?
Nous vivons un rêve, ou un jeu, ou on nous fait faire des aventures, nous sommes dans une disquette dure qui a tout ce qu'il faut, tout ce que nous devons faire. Les gens nous regardent comme un film d'aventure, comme les acteurs qui jouent un film d'aventure.
Lui dit, nous sommes des gens virtuels avec un cerveau intelligent comme les humains. Nous n'avons plus à nous faire du souci, puisque de toute façon, ce qui doit nous arriver, doit arriver, puisque c'est écrit à l'avance.
Gilbert lui dit, non, puisque notre cerveau est programmé pour que nous fassions du souci pour l'avenir.
Pourquoi?
Pour nous rendre plus humains et donner plus de vérité à nos aventures.
Gilbert lui dit, je me demande ce que ça peut nous rapporter, nos examens, en plus, pour nos aventures.
C'est bien la preuve que nous sommes des êtres bien vivants dans une vie bien réelle, parce qu'autrement, on n'aurait pas besoin de préparer des examens.
Gilbert lui dit, malheureusement,
et qu'est-ce qu'on fait de tous nos soucis?
Julien lui dit, ah, si un virus pouvait nous en débarrasser définitivement.
Gilbert lui dit, allez, assez rigolé. La récré est finie. Maintenant, au travail. Et se mettent à leur ordinateur.
Un matin, Nathalie finit son petit déjeuner et dit à sa mère, je rentre pas ce midi, je vais aller à la bibliothèque voir quelque chose.
Sa mère lui dit, bien, tu travailles toujours assez sec.
Oui mère, fais attention, je ne risque rien, je travaille que sur des choses que les gens connaissent déjà, d'après des livres, expertise et coupure de presse.
Et puis tu sais, ces gens-là se moquent complètement de ce que je pense d'eux. Ils sont tellement puissants.
Elle se lève, embrasse sa mère et sort de la pièce.
Une fois dehors, elle marche un peu et attend le bus 20. Est descendue du car et va à la gare de Lyon. Elle est dans la gare. Le hall est presque vide. 20 guichets. Un billet pour Lyon, s'il vous plaît. L'homme le lui tend. Elle paye. Quai A1. Départ 10 minutes. Merci. Elle se dirige vers le quai. Ne va pas dans la salle d'attente qui est juste à côté du quai A1. Elle composte son billet et va sur le quai. Il y a quelques voyageurs.
Par autocar pour la direction de Pontivy, départ 18h55, correspondance par autocar pour la direction de Quiberon, départ à la gare routière. Pour la sortie, veuillez emprunter
le passage. Je pourrais te demander tout ce que je voulais, je t'en souviens.
Sans poser de questions, ça tient toujours. Une promesse, c'est une promesse.
C'est le moment de le prouver. Motus, tout est là-dedans. Toutes les instructions avec les cartes à poster à la date indiquée.
Qu'est-ce qu'il y a?
Sans poser de questions.
Le train arrive. Il s'est arrêté.
Attends
un peu, puis entre dans les wagons. Elle a pris un billet de première classe. Entre dans un compartiment vide. S'assoit devant la fenêtre et attend. Le compartiment s'ouvre. Un jeune homme habillé d'un costume beige, cheveux châtains, épais, visage très sympathique et beau. Il porte à la main une mallette de cuir marron, genre de mallette qu'avaient avant les médecins. Il lui demande : cette place est-elle prise ? La place est en face d'elle. Elle lui dit non. Et il s'assoit et met la mallette à côté de lui. Le train se prépare à partir. Il s'est mis en marche tout doucement. Il quitte la gare. Elle regarde par la fenêtre. Le train quitte la gare. Paris. Rue, immeuble, puis banlieue, HLM, dépôt d'usine, puis campagne, champs, collines, arbres. L'homme qui est à côté d'elle lui demande : le train arrive à Lyon à quelle heure, s'il vous plaît ? Elle lui dit : à 14 heures, il met 5 heures. Il manque qu'ils mettent le TGV en route. Et oui, ce n'est pas le TGV, le jeune homme lui dit. C'est par manque d'électricité ? Elle le regarde et le trouve gentil, charmant. Il lui demande. De Lyon ? Elle lui dit non. Moi, en fait, je fais souvent le voyage de Lyon à Paris. J'ai mes activités dans les deux villes. Elle lui demande. Qu'est-ce que vous faites ? Il lui dit. Je suis médecin. Chirurgien spécialiste dans la greffe du corps. Elle lui dit : si jeune ? Oh, vous savez, il ne faut pas se fier à mon physique. Je suis beaucoup plus vieux que je ne le parais. Mais en fait, j'ai une chirurgie esthétique complète. Elle fait : ah, oui, j'ai un accident. Ou plutôt, on a voulu me tuer. Oui, un médecin. Concurrent jaloux. Un démoniaque, ricain. Heureusement que l'on m'a mené à la clinique et on m'a fait une chirurgie esthétique complète. Un médecin a eu la bonne idée de me la faire, et la bonté même de me la faire. J'ai eu une chirurgie plus complète que celle de Madame de Haute-Bord. Vous connaissez ? Non, il lui dit, une femme admirable. Vous êtes une de ses amies ? Non, mais tout le monde parlait d'elle à cette époque. Elle était dans tous les journaux. La femme la plus chic, la plus cultivée. Elle a fait de l'humanitaire dans l'association humanitaire Pontois, avec la fille Pontois. Très recherchée, Madame de Haute-Bord, chef des infirmières de la clinique. Bon, toi, une clinique dirigée par des riches, comme il se doit. C'était le boule en train de l'équipe. Enfin, une époque résolue. En ce temps-là, le travail était facile. Elle fait. Oh ! Pour moi, bien entendu, il y avait beaucoup de femmes du monde qui vivaient seules. Maintenant, il y en a de moins en moins. Elles étaient vive ces femmes, et le corps sur la main. Maintenant, pour trouver quelqu'un c'est plus dur. Pourtant, je fais du bon travail. Fait main et rapide. Bien voulu plus de place ici. Elle sourit et lui dit, vous plaisantez? Il lui dit, non, pas du tout. J'ai fait dans le train de Moscou. Le train a été chauffé. L'opération c'était urgent. Elle lui demande, mais le corps du donneur? Il lui dit, il vivait sur moi. Et c'est facile de trouver un donneur. Tout le monde peut être donneur. Il faut un peu de persuasion. Vous habitez Lyon? Non, je pars juste pour un aller-retour. Mais je ne vais pas à Lyon, je vais plus loin. Dit, oh comme c'est dommage. Et il se tait. Elle se dit, route de jeune homme qui aime plaisanter. Et le train roule, roule. À 12h30, dans le couloir, l'on passe pour annoncer le premier service au restaurant. Elle se lève pour y aller. Il lui dit, vous partez? Non, je vais déjeuner. Non, moi ça ne me dit rien. J'ai plutôt envie, c'est de travailler. Elle quitte le wagon, le compartiment plutôt, voit le contrôleur. Monsieur, s'il vous plaît, pour aller au restaurant, s'il vous plaît. Au fond, là, à gauche, merci. Et elle y va. Entre dans le wagon restaurant. S'assoit une table. Un serveur vient vers elle. Elle regarde la carte et commande son repas. Elle est toute seule à sa table. Tout en mangeant, elle se demande ce qu'elle va voir au cimetière. Elle se dit, c'est un guet-apens en pleine campagne, que pourrais-je faire? Elle termine son repas, retourne à son compartiment, il est vide. Le jeune homme a disparu. Elle s'assoit et regarde le paysage. Reste seule durant tout le reste du trajet. Enfin, le train arrive à Lyon, la Part-Dieu, la route de Vienne, les quais de Rhône, et il arrive à la gare Perrache. Elle descend à la gare. Il y a peu de monde sur le quai. Elle se dirige vers la sortie de la gare.
Maman ? À la gare. Où tu étais ? Tu t'étais endormie ? Oui, tu m'as manqué. T'as une petite mine.
T'es belle, ça t'a fait du bien l'air du grand large.
Tu trouves ? Ouais.
Puis, elle prend le passage centre commercial place Carnot. Va vers les arrêts des taxis. Elle s'engouffre dans un taxi. Elle s'est engouffrée dans un taxi et a donné l'adresse au chauffeur. Un chauffeur grand, fort, à tête ronde, cheveux rares, moustachu, chantant, lui dit « C'est bon, ça, ma petite dame. Ça va vous coûter cher. » Elle lui dit « Je vous paierai. J'y compte bien. J'y compte bien. » Et il met son taxi en route. Il lui demande « Qu'est-ce que vous allez faire là-bas, dans un coin pareil ?» Elle lui dit « Si je le savais, je n'irais peut-être pas. » Le taxi prend la direction des quais de Saône. Elle voit la ville, sale, délabrée, et la Saône grise, triste. Il lui dit « Il y a 30 ans de ça, le Rhône et la Saône, ça c'est la Saône que vous voyez. Eh bien, ils étaient rouges sang. Une vraie mare de sang. Fleuve de sang plutôt. Des barbares, des milliers de barbares plutôt. Vrai Saint-Barthélemy. » Elle lui demande « Qui a fait cette horreur ?» Il lui dit « On ne sait pas. Et pourquoi ? Non plus. C'est bien Lyon, ça. On fait des choses comme ça. » Le taxi suit le quai, sort du quai et direction la Loire. Puis il quitte la quai pour prendre l'autoroute. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.